Chapitre 3. La prudence de Mr. Goodge. October 5. J'ai rêvé toute la nuit dernière des beaux yeux de Molly et de sa chevelure flottante. Ce devait être une bonne créature. Comment a-t-elle pu se trouver dans la compagnie de ces insipides personnages aux yeux de poisson, aux absurdes coiffures ? Cela me dépasse. Qu'elle se soit confondue dans mes rêves avec Diana, jouant aux cartes avec une robe d'indienne retroussée sur un jupon de satin piqué, que je l'ai ensuite rencontrée dans le petit temple de stuc de la colline belge, et que je lui ai percé le cœur lorsqu'elle s'est transformée en Charlotte, cela ne relève que du train-train ordinaire des songes et ne peut par conséquent me causer le même étonnement. En relisant la lettre de Sheldon, je vois que je dois maintenant rechercher les descendants de l'avocat Bryce. C'est pourquoi j'ai employé l'heure de mon déjeuner à entrer dans l'intimité du plus vieux garçon de salle, un très vieux spécimen de la confrérie, avec un tablier blanc montant jusqu'au menton et tout entier au nettoyage des cuillères et des fourchettes. Avez-vous jamais connu dans cette ville un avocat du nom de Bryce ? Il se frotta les mains sur son tablier blanc, semblant profondément réfléchir, puis sa vieille tête se mit à branler pour dire non. Je vis tout de suite qu'il n'y avait pas grand-chose à espérer. « Non, murmura-t-il d'un air dolent, rien que je puisse me remettre dans l'esprit. » Je voudrais bien savoir ce que le bonhomme entendait par « se remettre quelque chose dans l'esprit ». « Cependant, vous êtes de Ullerton, je présume. » C'était assez pour expliquer l'abrutissement du sujet. « Imaginez-vous, mon cher, n'importe qui employé à vous servir pendant 55 ans des déjeuners et des dîners dans un trou comme Ullerton. 55 ans de beefsteak et de côtelettes, 55 ans de jambon et d'œufs, de tartines à peu près beurrées et d'éternel grog. » Après qu'il eut erré quelque temps en rangeant les fourchettes et les cuillères, et pendant qu'il s'occupait à débarrasser ma table, la figure éreintée du pauvre diable s'illumina tout à coup d'une lueur de clarté qui ressemblait presque à un éclair de raison. « Il y avait un Bryce à Ullerton dans mon enfance. J'ai entendu mon père en parler, » murmura-t-il lentement. « Un avocat ? Oui, un fameux extravagant. Le prince de Galles était alors régent, en remplacement de son vieux père devenu fou, à ce que l'on disait. » Les gens de ce temps-là étaient généralement plus extravagants qu'aujourd'hui, et puis ils portaient des Spencer. L'avocat Bryce en avait un couleur prune. Imaginez-vous, mon cher, un avocat en Spencer couleur prune. Qui voudrait de nos jours confier ses affaires à un semblable personnage ? Je me rengorgeais considérablement, croyant que mon vieil imbécile allait m'être utile. « Oui, c'était un fier extravagant, » reprit-il avec chaleur. « Je me le rappelle comme si c'était hier, aux courses de Tiverford. Il y avait des courses à Tiverford dans ce temps-là, et des gentlemen jockeys. L'avocat Bryce montait sa jument Roanne, on l'appelait Reine Charlotte. Mais il a fini par mal tomber, à ce qu'on m'a dit. Il a spéculé avec de l'argent auquel il n'aurait pas dû toucher, vous comprenez. » Il est parti pour l'Amérique et il y est mort. Mort en Amérique, est-ce possible ? Pourquoi diable n'est-il pas mort à Ullerton ? Il me semble que c'est un endroit plus agréable pour y mourir que pour y vivre. Et que savez-vous de ses fils ? Les fils de l'avocat Bryce ? Oui, assurément. La bouche de mon imbécile s'ouvrait démesurément pour livrer passage à un gros rire. « L'avocat Bryce n'a jamais eu de fils !» s'exclama-t-il d'un ton qui semblait prendre en pitié mon ignorance. « Il n'a jamais été marié !»« Bien, bien, ses frères alors. Il avait des frères, je suppose. » »« Non, pour autant que je sache. » Il ne pouvait plus m'être d'aucun secours. J'appris de lui qu'il n'y avait aucun Bryce dans Ullerton et qu'il n'en avait jamais connu pendant les 30 années qu'il avait vécu dans la ville. Il me donna un almanach des adresses de Ullerton pour confirmer son dire, un joli petit volume coûtant 1 shilling. Je lui demandai la permission de le garder 1/4 d'heure. En tournant les pages, je rencontrai à la lettre G le nom de Goodge. Gudge Jonas, ministre de la chapelle de Beulah, demeurant numéro 7, Waterhouse Lane, l'endroit même où j'avais été visiter la chapelle. Je pris la détermination d'aller rendre visite au digne Gudge. Il pourrait peut-être me renseigner sur le nom du pasteur qui veillait sur le troupeau wesleyen au temps de Rebecca Caulfield. Et les descendants de ce pasteur pourraient peut-être m'être plus utiles encore. La pieuse Rebecca avait dû sans doute confier beaucoup de choses à son directeur spirituel. Les premiers wesleyens avaient toute l'exaltation des quiétistes et un peu de la ferveur enragée des convulsionnaires. Ils se flagellaient, s'écorchaient et arrivaient jusqu'au spasme de l'épilepsie en l'honneur de la bulle unigénitus. Je trouvai aisément le numéro 7 Waterhouse Lane. C'est une petite maison à deux étages, précédée d'une palissade peinte en vert, un vert extraordinaire. Elle a environ 60 pieds carrés, un brillant gravier jaune, orné d'une rangée de coquillages blanchis. Quelques géraniums écarlates fleurissaient dans des pots d'une couleur plus rouge encore. La vue de ces fleurs me rappela le jardin de Bayswater, et cette radieuse jeune fille avec qui j'en avais parcouru les allées ratissées. Mais les affaires sont les affaires, et si je veux jamais pouvoir aspirer à la main de ma Charlotte, il faut que je me présente devant elle comme un conquérant. Me rappelant cela, je soulevai le marteau de la porte de Mr. Gudge, et quelques instants après, j'étais en conversation avec ce gentleman. Si les dissidents, quand ils sont pieux, ont une tendance à paraître crasseux, et si l'aimable et vénérablement grand Wesley a reçu du ciel pour ses disciples le don d'une chevelure miraculeuse, je l'ignore. Mais tous les curés méthodistes que j'ai eu l'honneur de connaître se ressemblent absolument à cet égard, et Gudge ne fait pas exception à la règle. C'est un devoir pour moi de dire que j'ai rencontré en lui un homme très poli, très disposé à m'aider, et beaucoup plus pratique et homme d'affaires que le recteur de Dewsdale. Il semblait que le don de l'éloquence fût descendu sur les Gudge pendant la vie même de John Wesley, et dès le début de la carrière de ce prédicateur, car ce fut un Gudge qui prêchait dans le magasin du drapier, et ce furent les édifiants sermons d'un Gudge qui développèrent la piété de Miss Rebecca Caulfield, plus tard Mrs. Haygarth. « Ce Gudge était mon grand-oncle, » dit le courtois Jonas, « et personne dans Ullerton n'était en meilleurs termes que lui avec Rebecca Caulfield. J'ai bien souvent entendu ma grand-mère en parler. Elle avait coutume de lui envoyer des volailles et des fruits de son jardin de Dewsdale. C'est même à l'instigation de mon grand-père qu'elle a largement contribué à l'érection de la chapelle dans laquelle j'ai le privilège de prêcher. » Je sentis que j'étais tombé sur une mine d'or. Je me trouvais en présence d'un homme d'esprit frisant la cinquantaine, non plus d'un vieux loup de mer ou d'un radoteur. Il pouvait fort bien se rappeler les paroles d'une grand-mère qui avait connu la femme de Matthew Haygarth. Et la pensée de cette visite à Mr. Gudge m'était venue de moi-même. La clairvoyance de Sheldon n'y était pour rien. J'étais en progrès dans mon rôle d'inquisiteur. Je suis employé à la poursuite d'une affaire qui a quelque rapport éloigné avec l'histoire de la famille Haygarth, dis-je. Et si vous pouvez me donner quelques renseignements à ce sujet, je vous en serai extrêmement obligé. J'appuyai sur l'adjectif « éloigné » et me considérai dans mon fort intérieur comme un Talleyrand au petit pied. « Quelle espèce de renseignement désirez-vous ? » me demanda gravement Mr. Gudge. Tout ce qui peut avoir rapport à Matthew Haygarth ou à sa femme. Mr. Gudge tomba alors dans une profonde méditation. « Je n'ai pas l'habitude d'agir sans réfléchir, » commença-t-il. Je sentis que j'allais avoir à subir un petit speech professionnel. « Les créatures impulsives sont les enfants de Satan, les descendants de Lucifer, les fils de Belzébuth. » Je me consulte dans le silence de la nuit et j'attends les inspirations de la sagesse dans l'obscurité à mes heures d'insomnie. Il faut que vous me donniez le temps de peser cette affaire dans mon esprit et que vous preniez patience. » Je répondis à Mr. Goodge que j'attendrais volontiers. « Voilà qui est parfait, » dit le pasteur. « Les gens du monde s'élancent en aveugle dans la vie, comme le lion dans les forêts. Je ne les imite pas. Il est probable, n'est-ce pas, que les renseignements que je vous fournirai seront une source de profit pour celui qui vous emploie. » Je commençais à comprendre que mon ami Goodge et le recteur de Dewsdale étaient deux personnages fort différents et que je devais diriger mon jeu en conséquence. « Cela dépendra de la nature de ces renseignements, » répliquai-je diplomatiquement. « Ils peuvent nous être utiles ou inutiles. »« Et dans le cas où il vaudrait quelque chose ?»« Dans ce cas, celui qui m'emploie serait certainement disposé à rémunérer la personne qui les lui fournirait. » Goodge retomba dans sa méditation. « C'était l'habitude de l'honoré Wesley de prendre conseil des Écritures, » dit-il un moment après. « Si vous voulez revenir demain, jeune homme, j'aurai pris conseil et je serai en mesure de m'entendre avec vous. » Je n'étais pas fort satisfait de m'entendre qualifier de « jeune homme », même par un foyer de lumière tel que le révérend Jonas Goodge. Mais comme j'avais besoin de lui, je me soumis avec assez de grâce à sa patriarcale familiarité. Je lui souhaitai le bonsoir en lui promettant de revenir le lendemain. De retour à l'hôtel, j'écrivis à Sheldon par le courrier du soir, lui rendant compte de mon entrevue avec Goodge et lui demandant quelle latitude il me laissait pour payer les services de ce gentleman. 6 octobre. Une lettre de Sheldon. Cher Hawkhurst, il peut y avoir quelque chose de très important à découvrir dans ce mystérieux enterrement à Dewsdale. Allez sans perdre de temps à Spotswold, examinez les registres, les pierres tombales, etc. Tâchez de savoir si quelque Haygarth ou quelque personne de la famille a jamais demeuré là. Vous êtes sur une piste, suivez-la jusqu'à ce qu'elle se perde, ainsi qu'il arrive souvent, ou que vous aperceviez qu'il n'y a plus rien à en espérer. Cette affaire de Dewsdale vaut la peine d'être étudiée. Ne négligez pas les descendants de l'avocat Bryce. Tout à vous, G.S. Gray's Inn, 5 octobre. Avant de partir pour Spotswold, il était nécessaire que je revisse Goodge. Je trouvais ce gentleman dans les dispositions les plus pieuses et en même temps très affairé. Il s'était adressé aux Écritures, comme le fondateur de sa secte, mais je crois avec des aspirations moins idéales. Il s'était arrêté au 12e verset du 9e chapitre du livre des Proverbes. « Si tu es sage, tu emploieras ta sagesse pour toi-même, » dit-il solennellement. « D'où je conclus que je serais impardonnable si je vous livrais ce que vous cherchez sans une rémunération convenable. Qu'êtes-vous disposé à proposer ?» Le ton avec lequel le révérend Jonas prononça ces paroles n'aurait pas été plus majestueux ni plus protecteur s'il avait été Saül et moi l'humble David. Mais un homme qui cherche à gagner 3000 livres doit savoir passer par-dessus beaucoup de choses. Voyant que le ministre était disposé à se faire brocanteur, je ne crus pas devoir user de plus de cérémonie. Le prix dépendra de l'article que vous avez à vendre. Il faut que je le connaisse pour pouvoir l'apprécier. Supposez que mes renseignements aient la forme de lettres. Des lettres de qui à qui? De Mrs. Rebecca Haygarth à mon grand-oncle, Samson Goodge. Et combien de lettres de ce genre avez-vous à vendre? Je dis cela très crûment. Mais les susceptibilités du révérend Jonas n'étaient pas des plus vives, et il ne sourcilla pas. Supposons 40 lettres. Je dressai les oreilles et j'eus besoin de toute ma diplomatie pour ne rien laisser paraître de ma profonde émotion. 40 lettres ! Il doit y avoir un monde d'informations dans 40 lettres particulières, à moins que celle qui les a écrites ne fût une diseuse de rien. Et quelle période couvrent ces lettres ? Cette année environ, de 1769 à 1776. 4 ans avant son mariage avec notre ami Matthew et 2 ans après. Ces lettres sont-elles longues ou seulement quelques mots? Elles ont été écrites à une époque où personne n'écrivait de courtes lettres, répondit sentencieusement Goodge. La plupart de ces lettres ont 3 feuilles, et l'écriture de Mrs. Rebecca était très nette et très fine. « Très bien, m'écriai-je. Je présume qu'il n'est pas nécessaire de vous demander à voir une de ces lettres avant de conclure, hein, Mr. Goodge ?»« Je ne crois pas que ce soit nécessaire, » répondit le vieux jésuite. « J'ai pris conseil, et je m'en tiendrai à la lumière qui m'est apparue. Si tu es sage, tu emploieras ta sagesse pour toi-même. » « Et que demandez-vous pour les 40 lettres ?»« 20 livres. »« Une grosse somme, Mr. Goodge. »« Mais si elles ne devaient pas vous être utiles, il est probable que vous ne chercheriez pas à les avoir. J'ai pris conseil, jeune homme. »« Et c'est là votre dernier mot ?»« Je n'accepterai pas 6 pence de moins. Je n'ai pas l'habitude de manquer à ma parole. De même que Jacob a suivi Laban pendant 7 ans... Et 7 autres années encore ensuite, parce qu'il avait promis de le faire, je m'en tiens à ce que j'ai dit, ce sera 20 livres, jeune homme. » La solennelle onction de ces paroles ne saurait se décrire. L'audacieuse affectation avec laquelle il introduisait dans son sordide marché des semblants de scrupules eût dégoûté Tartuffe en personne. Voyant qu'il était résolu à ne pas faire de sacrifice, je pris congé de lui. Je télégraphiai immédiatement à Sheldon pour savoir s'il m'autorisait à accepter sa demande. Puis je revins à mon hôtel, où je me consacrai pendant 10 minutes à l'étude d'un livret des chemins de fer, à l'effet de trouver le plus court chemin pour aller à Spotswold. Après avoir parcouru attentivement une effrayante quantité de noms propres et d'éblouissantes colonnes de chiffres, je dénichai un endroit nommé Black Harbor, correspondant avec Wisborough, Spotswold et Chilton. Un train partait de Ullerton pour Black Harbor le soir à 6 heures et devait arriver à 8h40. Cela me laissait un intervalle de quelques heures pendant lesquelles je n'avais rien à faire, à moins qu'il n'arrivât des télégrammes de Sheldon. La chance de recevoir sa réponse me retint prisonnier dans la salle à manger de l'hôtel du Cygne, où je lus presque en entier les feuilles locales et les journaux de Londres. La dépêche finit enfin par arriver. « Dites à Goodge qu'il aura la somme demandée. Réclamez lettre de suite. Argent envoyé ce soir par poste. » Tel était le message de Sheldon, court et précis, dans les limites de la taxe pour 20 mots. Je retournai chez Goodge. Je lui communiquai le télégramme sur sa demande et lui demandai de me remettre les lettres. J'aurais dû mieux connaître mon révérend ami et ne pas m'imaginer qu'il consentirait à se dessaisir de ses documents avant d'avoir touché son argent. Il esquissa un petit sourire machiavélique. « Les lettres ont attendu longtemps, jeune homme, » déclara-t-il après qu'il eut examiné le télégramme aussi attentivement que s'il eût été écrit en caractère punique. « Et vous voyez qu'elles ont bien fait, elles peuvent attendre encore. Si tu es sage, tu emploieras ta sagesse pour toi-même. Venez les chercher demain et apporter l'argent, disons à 11 heures du matin. » Je mis mon chapeau et souhaitai le bonjour à mon ami. J'ai été souvent tenté de jeter quelque chose à la tête des gens et je me suis retenu. Mais jamais Satan ne m'avait aussi vivement tenté qu'en ce moment. Je crois bien que si j'avais eu sous la main un tisonnier ou un couteau à découper, je l'aurais envoyé par le nez patriarcal de mon saint Jonas. Dans l'état des choses, je revins à mon hôtel où je dînai très vite. Je n'emportai qu'un petit sac de voyage. Je ne devais probablement être de retour que le lendemain soir au plus tôt. J'arrivai à la station 10 minutes avant le départ du train. J'eus le temps d'épuiser l'intérêt que recèlent les affiches collées sur les murs. J'appris comment je pouvais avoir mon mobilier transporté aux meilleures conditions, en supposant que j'eusse un mobilier. Je découvris où je devais m'adresser pour avoir un service de table et pour acheter des jalousies de la forme la plus convenable pour protéger mes fenêtres contre les coups de soleil d'été. J'étais encore occupé à déchiffrer la description de cette nouvelle invention de jalousie lorsque la cloche se mit à sonner. Presque aussitôt après, le train venant de Londres entra dans la gare avec un bruit de tonnerre. C'était le train pour Black Harbor. Il y avait un grand nombre de voyageurs pour le nord, et beaucoup aussi qui descendaient à Ullerton. On se pressait, on se bousculait. J'eus d'abord quelques difficultés à trouver une place dans les secondes. Ceux qui s'y trouvaient se tenaient devant les carreaux avec des mines désagréables. Vous savez, ces mines particulières aux personnes qui voyagent en chemin de fer. Je finis néanmoins par en dénicher une, mais pendant que j'allais d'une voiture à une autre, je fus frappé par une chose qui me donna plus tard à réfléchir. Je me trouvais face à face avec mon respectable ami et patron, Horatio Paget. Nous n'eûmes que le temps de nous reconnaître et d'échanger un cri exprimant notre mutuelle surprise. La cloche s'étant remise à sonner, je fus obligé de m'élancer vers mon compartiment. Un instant de plus et je restais sur la voie, ce qui m'eût terriblement embarrassé. En effet, le capitaine n'eût pas manqué de me questionner sur l'affaire qui m'amenait à Ullerton. N'étais-je pas censé être à Dorking, chez ma vieille tante ? Mais que peut venir faire le brave capitaine ici ? Sheldon m'a recommandé le plus strict secret, et j'ai été aussi muet que la tombe. Il est par conséquent presque impossible que le capitaine ait aucune idée de notre affaire. C'est bien l'homme du monde le plus capable de chercher à me supplanter, s'il avait le moindre vent de ce qui m'occupe, mais j'ai la conviction que cela n'est pas. Cependant, l'annonce publiée par le Times sur la fortune des Haygarth a pu être lue par bien d'autres que Sheldon. Et si mon patron l'avait aussi remarqué ? Cependant, lorsque j'ai quitté le capitaine, il était engagé dans les affaires de Philip Sheldon. Sans aucun doute, ce sont ses affaires qui l'ont conduit ici. Cette ville, qui semble l'abomination de la désolation à toute personne habituée à vivre à Londres ou à Paris, est néanmoins un centre commercial, et l'agent de change peut aussi bien mettre dedans les simples habitants de Ullerton que les enfants moins naïfs de la métropole. Ayant fait ces réflexions, je pris le parti de ne pas me tourmenter plus longtemps de cette apparition inattendue. À Black Harbor, je trouvai une voiture publique qui me transporta à Spotswold. Cette voiture était si étroite et si basse que j'en eus des crampes dans les jambes et la tête toute meurtrie. Il faisait nuit noire lorsque la voiture me déposa avec mes deux compagnons de voyage, qui semblaient des campagnards, à Spotswold. Dans l'obscurité de la nuit, je ne vis qu'une demi-douzaine de maisons séparées de la route par des palissades en bois, une vieille église et une auberge au toit bas, à la fenêtre de laquelle tremblotait une petite lumière derrière un rideau rouge. Je demandai à cette auberge un asile pour la nuit, et je fus conduit à une chambrette dont les murs étaient blanchis à la chaux, et dont le lit, entouré de rideaux de basin, empestait la pomme. C'était étroit, modeste, mais propre, et cela avait une petite saveur rustique qui ne me déplut pas. Je m'imaginais descendant à cette auberge avec Charlotte, et il me semblait qu'il serait doux de vivre dans ce petit village perdu. Serais-je heureux avec cette chère enfant si elle m'appartenait ? Hélas, j'en doute. Un homme qui, jusqu'à 27 ans, a mené la vie de bohème, est bien peu en état de goûter le pur bonheur que donne la tranquillité du foyer domestique. N'entendrai-je pas toujours le bruit des billes de billard ? Ou la voix du croupier ? N'aspirerais-je pas après le bruit, la cohue des balles du West End, les folles émotions des courses, pendant que mon innocente jeune femme serait assise à mon côté, en me disant d'admirer les beaux yeux bleus de mon premier-né ? Non, Charlotte n'est pas pour moi. Il y aura toujours deux classes séparées, les moutons et les boucs, et je suis parmi les boucs. Et cependant, il y a des gens qui se moquent des doctrines de Calvin et qui nient la prédestination. N'étais-je pas prédestiné à vivre dans un bouge, à être élevé au milieu de gens sans foi et sans honneur, à me nourrir comme un vagabond, à porter des habits non payés ? Les Euménides n'ont-elles pas présidé à la naissance de Richard Savage, qui fut tellement malheureux que pour lui, les lois de la nature semblaient renversées, puisque sa mère même le haïssait ? Une fatalité sinistre ne s'est-elle pas attachée au pas de Chatterton ? Une mystérieuse malédiction n'a-t-elle pas frappé ces hommes qui portaient le nom de duc de Buckingham ? Quelle folle lamentation je me laisse aller à consigner dans ce journal qui ne devrait être qu'une simple relation. Mais il est si naturel au genre humain de se plaindre qu'à défaut de confident, il a recours aux plumes, à l'encre et au papier. Je consacrai ma soirée à une conversation avec l'aubergiste et avec sa femme. Le nom de Haygarth leur était aussi inconnu que s'il eût appartenu à une inscription trouvée dans le tombeau des pharaons. Je me fis renseigner sur les quelques habitants du village et j'appris que le vieillard le plus âgé était le sacristain. Il y était né et, à ce que croyait mon hôte, il ne s'était jamais éloigné de son lieu de naissance de plus de 20 miles. Son nom est Peter Drabbles. La première chose que j'aurai à faire demain matin sera d'aller le trouver, quelque personnage du genre de mon vieux loup de mer, je suppose. Puis j'examinerai les registres de la paroisse. 7 octobre. Matinée humide, pluie fine, sans parler d'un froid pénétrant qui, malgré mon épée par-dessus, me glace jusqu'à la moelle des os. Je ne crois pas du reste que Spotswold soit beaucoup plus agréable au cœur de l'été. Tel que je l'ai vu aujourd'hui, ce lieu me paraît le type de ce qu'il y a de plus sombre, de plus triste et de plus désolé. De longs marais entourent le petit village qui est blotti dans un fond, comme un pauvre animal abattu qui cherche à se mettre à l'abri de la bise. Sur la limite du marais, au-dessus de maisons éparses et de la petite auberge, s'élève le carré massif de la tour d'une vieille église. Elle est tout à fait hors de proportion avec les pitoyables habitations qui la voisinent. Ce doit être les restes de quelque monastère. Je me dirigeai vers cette église, malgré la pluie, accompagné par le sacristain. C'était un vieux bonhomme tout cassé qui remplissait à la fois les fonctions de sacristain, de clerc, de fossoyeur et toutes autres fonctions officielles du même genre. Nous fîmes notre entrée après que mon loup de mer numéro 2 eut fait sonner un trousseau de clés énormes. La porte s'ouvrit en grinçant et se ferma avec un bruit épouvantable. Si laide et si noire que paraisse l'église au dehors, elle est encore plus laide et plus noire à l'intérieur. Une humidité glaciale tombe de ses murs, elle semble venir d'un sépulcre. L'on y rencontre tous les mystérieux recoins et armoires particuliers à cette espèce d'édifice. Un orgue qui, chaque fois qu'une porte est ouverte ou fermée, laisse échapper un son plaintif. Un comble voûté qui reproduit le bruit de pas, dont l'écho fait songer à la voix d'un esprit qui jetterait un cri douloureux dans l'espace. Encore un impie qui franchit le seuil du temple sacré, encore un plébéien qui vient profaner les cendres des seigneurs de ce pays. La sacristie a, s'il est possible, un cachet plus mystique encore que toutes les sacristies en général. Mais un esprit occupé d'affaires dédaigne les considérations d'un ordre surnaturel. Pour un moment, cependant, tous les contes de Noël que j'avais lus ou entendus raconter sur les sacristies affluèrent à mon cerveau. Le mariage du fantôme, à la suite duquel la belle main blanche de la fiancée se transforme en une main de squelette au moment où elle signe le registre. Le baptême surnaturel, où, après la cérémonie, le parrain et la marraine, la nourrice et l'enfant, le prêtre et le sacristain brusquement se raidissent, pâlissent, n'ont plus de souffle et se changent en autant de cadavres. Mais enfin, lorsque ces ombres se furent évanouies, je redevins un clerc d'avocat et me mis résolument à fouiller les registres et à interroger mon ancien. Je trouvai dans cet individu une créature tellement obtuse qu'en comparaison de lui, mon vieil habitant de Ullerton eût semblé un Pitt ou un Chatham. Mais je le questionnai et le requestionnai jusqu'à ce que j'eusse presque mis ma pauvre cervelle à l'envers et fût parvenu à apprendre de lui, premièrement, qu'il n'avait jamais connu personne du nom de Haygarth dans tout le cours de ses 75 ans de végétation, que, par politesse, je voulus bien qualifier d'existence. Secondement, qu'il n'avait jamais entendu personne parler des Haygarth. Troisièmement, qu'il connaissait intimement tous les habitants du village. et étaient convaincus qu'aucun d'entre eux ne pourrait me donner l'ombre d'un renseignement à leur sujet. Après que je fus arrivé, avec infiniment de temps et de peine, à extraire de mon mieux ce qui précède, je passai au registre. Si l'encre fabriquée dans le siècle actuel n'est pas plus durable que l'abominable fluide consacré à l'écriture il y a 100 ans, je plains amèrement les générations futures. Néanmoins, prenant en considération l'incontestable fait que 3 000 livres font une somme, je m'acharnai à ma besogne pendant 2 heures et parvins à déchiffrer la mention suivante, écrite en vieux style et avec l'orthographe du temps. 1. Matthew Haygarth, âgé de 4 ans, a été enterré dans cette église, à côté de la tombe de Marthe Stileman, à environ 10 pieds de distance du Grand If, 6 février 1753. 2. Mary Haygarth, âgée de 27 ans, a été enterrée sous le Grand If, 21 novembre 1754. Après avoir copié ces 2 mentions, je vins dans le cimetière pour y rechercher la tombe de Mary Haygarth. Sous un if magnifique, qui pouvait être déjà vieux il y a 100 ans, je trouvai, confondu avec beaucoup d'autres, une pierre tumulaire tellement couverte de mousse que ce fut seulement après avoir enlevé avec mon canif la verdure parasite que je parvins à mettre à découvert les lettres qui y avaient été creusées. Je pus enfin lire cette courte inscription. « Ici repose le corps de Mary Haygarth, âgée de 27 ans, née en 1727, morte en 1754. Celui qui lui dédie cette tombe s'afflige sans espoir de consolation. » Singulière épitaphe, pas un mot de latin, aucun texte des Écritures, aucune attestation habituelle des vertus et des mérites de la personne décédée, pas un mot indiquant si elle était morte fille, femme ou veuve. C'était une inscription fort embarrassante pour un avocat ou un généalogiste, bien qu'elle eût pu plaire à un poète. J'imagine que cette Mary Haygarth doit avoir été quelque paisible créature ayant fort peu d'amis pour déplorer sa perte. Peut-être n'en a-t-elle eu qu'un, celui-là même qui déclare que son chagrin est sans espoir de consolation. C'est là tout ce que ma patience et ma subtilité ont pu accomplir pour moi à Spotswold. J'ai épuisé tous les moyens d'obtenir de plus amples informations. Par conséquent, après avoir écrit et mis à la poste mon rapport pour Sheldon, je ne vis pas autre chose à faire que de retourner à Ullerton. Je n'emportais avec moi que la copie des 2 mentions inscrites sur le registre des enterrements. Quels sont ce Matthew et cette Mary Haygarth, et de quelle façon peuvent-ils être alliés à notre Matthew? C'est une énigme qui ne peut être comprise à Spotswold. Ici se termine l'histoire des Haygarth, dans des tombes creusées sous le Grand If.